Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. On poursuit notre série consacrée à ce retour sur la décennie 2010. Comment le monde a-t-il changé en 10 ans? Pour nous aider à comprendre les grandes évolutions de cette période, nous avons la chance d'être accompagnés toute cette semaine par probablement le meilleur spécialiste des relations internationales et le parrain de Culture Monde. Bonjour Bertrand Badi.
Heureusement que c'est de la radio, vous ne me voyez pas rougir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être avec nous hier, vous nous avez proposé votre vision de cette décennie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un thème en particulier qui est celui de l'islam politique, ou plutôt des islams politiques, devrais-je dire, et en particulier peut-être sur la manière dont les mouvements, les courants islamistes pensent leur rapport à l'État et comment peut-être à l'inverse aussi l'État se comporte à l'épreuve de l'islamisme. Pour ce faire, nous avons invité Bernard Rougier. Bonjour Bernard Rougier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur du Centre des études arabes et orientales, probablement l'un des meilleurs spécialistes de la question du djihadisme, du salafisme. Rougissez à votre tour. Et vous préparez un ouvrage qui va paraître dans quelques jours, Les territoires conquis de l'islam. On aura l'occasion d'en parler.
L'islamisme,
oui. Absolument, qui va paraître au PUF dans quelques jours. Avant d'évoquer toutes ces questions ensemble, peut-être un petit coup d'œil justement dans le rétroviseur qui nous a été préparé par Benjamin Hu. Écoutez donc ce qui s'est passé entre autres dans cette décennie.
On est libre, on est libre. Filmez-nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pas à la terreur, pas à le dictateur.
C'est le résultat des efforts de tous les Égyptiens qui ont participé à la révolution.
Je ne peux pas mettre de mots sur ce que je ressens. On a vraiment souffert de l'oppression et de la dictature. Ils disent que ce n'est pas vrai. Il y a eu tant de rumeurs contre la révolution, mais Allah a décidé de nous entendre et de nous donner cette victoire.
Abou Bakr al-Baghdadi dit « Je brise les barrières ». Par la grâce de Dieu, nous allons supprimer les frontières de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et de tous les pays jusqu'à prendre Jérusalem. C'est la première de toutes les frontières que nous allons abattre.
Voilà donc cette décennie qui s'est ouverte sur les printemps arabes, avec cette vague populaire qui a déferlé du Maghreb au Moyen-Orient. Quelques semaines, des dictateurs quittent le pouvoir, des dictateurs qui étaient là depuis des années, des décennies, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye. D'autres sont toujours là, Bachar el-Assad en Syrie par exemple. Le printemps des peuples a été suivi par ce que d'aucuns ont appelé l'hiver islamiste, avec des mouvements islamistes conservateurs qui se sont imposés par les urnes, notamment en Égypte avec les Frères musulmans, mais aussi du côté de la Tunisie avec Ennahda. Et puis finalement, ces forces conservatrices ont été écartées par la force d'un coup d'État militaire en Égypte, par le truchement de nouvelles élections pour ce qui est de la Tunisie. Pour ce qui est de l'Occident, la décennie 2010 a été évidemment jonchée par de nombreux attentats particulièrement tragiques. Ceux de novembre 2015, évidemment, ont marqué peut-être plus profondément encore cette société française. Et puis sur le plan idéologique, on a vu aussi un salafisme accroître son influence de façon considérable de l'Europe au Moyen-Orient. Et puis enfin, cette décennie, elle s'est refermée sur la défaite militaire de Daesh qui a perdu ses territoires au Levant, sur l'élimination aussi de celui qui était à sa tête, Abou Bakr al-Baghdadi. Bertrand Badi, c'est évidemment une rétrospective non exhaustive, mais que vous inspire-t-elle à grands traits?
Elle inspire peut-être deux choses. La première, c'est que nous sommes, dans toutes les situations que vous venez de décrire, face à une crise grave des institutions, un vide politique, vide institutionnel, je dirais crise sociale également, et qu'il faut regarder en face ces phénomènes pour comprendre que ces mouvements islamistes, dans leur extraordinaire diversité, vont occuper un terrain que la dictature avait laissé totalement vide. Et quand je dis occuper un terrain, je veux dire souvent par défaut. C'est-à-dire, ce sont des systèmes politiques qui n'avait pas d'opposition, ça c'est quelque chose de bien connu, mais surtout qui n'avait pas renouvelé leur vision du monde, qui n'avait pas produit ce qu'on appellerait dans notre jargon occidental un marché politique. Et lorsque s'additionne une situation de vacuité institutionnelle, politique, sociale, peut-être même économique, et l'absence d'alternatives construites, effectivement, l'usage, sur des modes extraordinairement différents, et j'insiste beaucoup là-dessus, du référent islamique, va dominer la scène. Va dominer la scène parce que c'est le seul élément de réplique qui soit préconstruit. L'Iran avait vécu ça à la fin des années 70. Le régime du Shah avait complètement vidé le pays de toute opposition. Et tout d'un coup, face à cette explosion populaire, l'islam était le seul emblème à portée de main. Mmh. Alors, je voudrais ajouter peut-être une deuxième chose. C'est que dans ce grand mouvement qui va un peu bouleverser la chronique politique, d'abord, l'islam est plural. Et l'islam, c'est une religion. Elle a quantité de facettes et de réalisations et de constructions. L'une de ces facettes, c'est sa construction politique. C'est ce que l'on appelle l'islamisme. L'islamisme, c'est la tentative de construire l'islam en idéologie qui a vocation à combler cette vacuité politique dont je parlais tout à l'heure. Mais l'islamisme politique est lui-même extraordinairement diversifié. Il va de la monarchie saoudienne à la monarchie marocaine en passant par tout cet éventail de contestations islamistes qui elles-mêmes peuvent être très modérées, presque institutionnalisées, presque parlementaires, presque l'équivalent des démocraties chrétiennes jusqu'aux formes djihadistes les plus violentes. Alors faisons bien attention parce que on parle de l'islam au singulier, on parle de l'islamisme au singulier, le président de la République a parlé de l'hydre islamiste, c'est infiniment plus compliqué que cela et ce qui est intéressant c'est de voir que dans cette situation de crise, vous avez tous ces courants qui vont essayer de relever la tête et de s'affirmer. Et évidemment, dans un contexte révolutionnaire, tout ceci conduit à une logique de radicalisation.
Bernard Rougier, Bertrand Badie insiste sur la crise sociale, sur la vacuité politique qui profiterait aux islamismes.
Il a raison sur la crise des institutions, incontestablement. Et d'une certaine manière, les évolutions diversifiées de ces révolutions sont l'expression d'un rapport aux politiques différent selon les pays. Je prends l'exemple de la Syrie. Il est assez intéressant de voir que d'une certaine manière, la population sunnite, qui a basculé progressivement vers l'islamisme puis le djihadisme, pour partie, était elle-même enfermée en quelque sorte dans son identité religieuse. C'est-à-dire que le régime, au fond, avait passé un pacte avec les secteurs sunnites de la population, majoritaire. Si vous ouvriez un manuel d'éducation, vous n'aviez que la présentation de l'islam sunnite, alors qu'on sait que le pouvoir était détenu par la minorité alaouite, par des éléments de la minorité alaouite. Le moufti de la République est sunnite. On laisse en quelque sorte cette population dans son expression religieuse. Et sous Hafez el-Assad, après les événements de 82, la destruction de la ville de Hama, il y a eu la construction d'au moins 500 centres de mémorisation du Coran. Comme si cette population, au fond, ne pouvait exister qu'à travers son expression religieuse. Et au moment où la contestation commence, dans une absence totale, évidemment, par définition, de société civile, on a le pouvoir laissé traditionnellement à des hommes d'affaires la capacité de s'exprimer dans le monde des affaires, mais la population civile n'avait ni parti, ni une tradition parlementaire oubliée, occultée, pas de syndicat libre, évidemment. Et donc, elle est assez naturellement passer vers le référent religieux. Et à ce moment-là, le régime avait beau jeu de dire « c'est nous ou le chaos, c'est nous ou les islamistes ». La population avait été comme préparée d'une certaine manière. C'est une équation terrible. Et se posera toujours la question, mais je ne vais pas rester seulement sur le cas syrien, de savoir ce qui relève des logiques anthropologiques, culturelles, des rapports de la temporalité politique propre, et ce qui relève du registre stratégique. Que se serait-il passé si l'Europe, les États-Unis avaient massivement aidé l'armée syrienne libre? Est-ce qu'on aurait eu cette djihadisation? De quelle mesure les sociétés, avec leur propre rythme, seraient allées dans cette direction ou n'y seraient pas allées? Ça, c'est ce débat entre les équilibres stratégiques d'un côté et les logiques propres, anthropologiques des sociétés et leur temps propre, est un débat très lourd. Et pour finir, je rejoins Bertrand Badi, il faut vraiment faire très attention aux mots. On a l'islam comme culture, l'islam comme religion et l'islam comme idéologie. Ici, nous parlons de l'islamisme et des islamistes. Ouais. Et la capacité particulière du djihadisme dans le cas irako-syrien, mais je l'avais déjà, quand j'étais jeune étudiant et que je faisais ma thèse, je l'avais observé dans les camps palestiniens du Liban, cette capacité, quand il n'y a plus d'institutions, quand tout le jeu institutionnel est mort en quelque sorte, quand une identité politique n'est plus alimentée par des rituels, des croyances et une participation, la capacité du djihadisme à offrir un autre référentiel et à détruire de l'intérieur les identités politiques.
Mais ce jeu institutionnel, ce jeu politique, il n'est pas complètement mort s'agissant de la France. Vous avez regardé, vous en particulier, comment justement les gens, y compris dans la société française, se tournaient quand même vers ces islamismes. Dans cet ouvrage apparaissent les territoires conquis de l'islamisme. Vous expliquez comment des entrepreneurs du religieux parviennent finalement à imposer leur propre conception de l'islam à travers des espaces bien particuliers, que ce soit des mosquées, des salles de sport, des sandwicheries halal, etc., etc. Si on regarde sur 10 ans, et puis ensuite on posera la question à Bertrand Badi, mais pareil, sur cette décennie, quelle est l'ampleur de cette conquête communautariste? Comment est-ce qu'elle a évolué sur 10 ans et comment la République peut répondre à ce défi?
Ah, c'est un autre enjeu. Ce qui me paraît très frappant, et ce qui n'a pas été suffisamment exploré, j'allais dire, à la fois par les politiques, à la fois par la recherche, c'est l'extrême sensibilité entre les deux rives de la Méditerranée. Tout ce qui se passe au sud a des effets au nord. Et d'une certaine manière, les mouvements idéologiques ont évidemment des conséquences dans les sociétés européennes. Et là, il y a une série de facteurs. Alors, c'est très long de les énumérer. Je vais en prendre juste un exemple, parce qu'on le connaît pas bien. La sortie de la guerre civile algérienne, je parle de la guerre des années 90, elle s'est faite avec un pacte qui, au fond, donnait aux éléments conservateurs salafistes une partie du contrôle de l'espace culturel et social algérien contre l'abandon de la lutte armée. Les hélicoptères de l'armée algérienne sont passés au-dessus des maquis, ont lancé des tracts signés par les grands oulémas saoudiens qui ont fait leur médiation pour régler le conflit. Et ce nouveau pacte, entre guillemets, a eu évidemment cette diffusion du salafisme comme finalement religion de la paix civile, a eu des effets déstructurants, en quelque sorte, sur la relation aux institutions en France. Vous voyez, donc on a là, ici, on est dans une temporalité qui n'est pas celle des révolutions arabes, mais qui était la fin d'un conflit algérien, où une solution politique mise en place par Bouteflika et une partie des services algériens ont eu des effets directs sur la diffusion du religieux. Et vous savez, en sociologie, Bertrand Badi le sait mieux que moi, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des contagions complexes, mais qui est en fait la théorie de Paul Lazarsfeld dès les années 40. Si une idée est confirmée par différentes sources d'autorité, l'imam dans le bled quand je reviens en Algérie, l'imam à Argenteuil, Google quand j'utilise mon ordinateur, eh bien je vais considérer que c'est l'islam. Voilà, ça c'est un des facteurs, mais ça n'est pas le seul, hein, qui peut expliquer l'extrême sensibilité entre les dynamiques du sud vers le nord.
Et alors Bertrand Badi, alors pourquoi l'idée salafiste? Parce que c'est bel et bien celle-là qui a considérablement pris de l'ampleur dans la décennie. Vous dites nom de la main. Alors justement, on va vous entendre là-dessus. Pourquoi finalement son succès? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et puis,
je crois d'abord qu'il faut poser une chose qui est peut-être oubliée, à savoir que l'islam a une longue histoire de prise en charge de la contestation. Il y a une page notamment de notre histoire qu'il faut connaître et qu'on répugne à regarder, c'est celle de la période coloniale. Et durant la période coloniale, l'essentiel de la résistance à l'administration coloniale se faisait par usage de l'emblème musulman. Et cela, y compris dans le Sahel. Le Sahel est très intéressant de ce point de vue-là. Prenez les grands guerriers seigneur de guerre, de résistance contre l'administration coloniale, Adjomertal, dont Édouard Philippe a rendu le sabre solennellement aux autorités sénégalaises tout récemment.
En déplacement au Mali.
Voilà. Prenez Lamine Dramé, autre résistant à la colonisation. Tous ces gens-là cherchaient à se dresser en même temps. Et leur rassemblance avec maintenant est frappante, contre l'administration coloniale et contre les chefferies traditionnelles jugées collaboratrices. On retrouve exactement la même tendance aujourd'hui lorsque ces mouvements viennent dénoncer solidairement l'Occident et les régimes en place. C'est la même chose. Et comment articuler cette contestation? Quand on est dominé par une administration coloniale française, pensée comme européenne, chrétienne, tout ce que vous voulez, le levier, c'est le recours à l'islam. Et donc ces gens-là, qu'ont-ils fait? Ils ont été faire des pèlerinages à la Mecque, ils y ont passé pas mal de temps, ils sont arrêtés au Caire à Lazare, ils ont appris le Coran, ils ont créé en rentrant chez eux des écoles coraniques et tout le processus de contre-socialisation, voilà le mot que je voulais lâcher, se met ainsi en place, mêlant ainsi éducation à autre chose de différent et revendications souvent extrêmement violentes puisqu'il s'agissait de faire la guerre. Donc en même temps on éduquait et on faisait le djihad. Et ça s'est poursuivi en Algérie entre 1871 et la fin du 19e siècle. Il y a eu quantité de révoltes, les révoltes de Mokrani, les révoltes dans les Aurès, les révoltes dans le sud oranais. Il y en avait quantité. Et tout ceci a même conduit l'administration coloniale, vous voyez que rien n'est nouveau, à réagir en contrôlant de manière fébrile et autoritaire les pèlerinages vers la Mecque, qui étaient extrêmement limités, surveillés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je fais cette petite leçon d'histoire? C'est toujours bon de faire de l'histoire. Eh bien, c'est pour montrer que l'islam s'est inséré dans la modernité à partir d'une posture qui était, je dirais, naturellement contestataire. Il y avait un islam de pouvoir. Tout à l'heure, on citait l'Arabie Saoudite, on citait la monarchie chérifienne, etc. Bien sûr. Mais il y a aussi, dans ce monde qui, en quelque sorte, a vu toutes ces grandes utopies novatrices étouffées à la fin du 19e siècle et tout le long du 20e siècle, c'était en quelque sorte le porte-emblème. Alors, ce qui est très important, et pour faire écho à la question que vous venez de poser, c'est que il y a quantité de façons de se poser avec cet emblème de contestation. Il y a une contestation qui peut être, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais il est audible, modéré. Il y a ensuite toute une gradation dans la violence, mais il y a aussi toute une ventilation dans les formes et les idéologies que cela revêt. Vous dites salafisme, c'est le mot qui vient aux oreilles. Tous les mouvements djihadistes radicaux ne sont pas salafistes.
Absolument.
Vous avez aussi des salafistes qui sont quiétistes. Tout ça est extraordinairement compliqué. N'oubliez jamais l'entrepreneur politique. C'est ça que je veux dire.
Évidemment, mais Bernard Rougier, ce salafisme, clairement, il a conquis de nouveaux territoires et notamment, vous expliquez par exemple dans votre ouvrage que l'une des clés de son succès, c'est qu'il porte en lui une puissance normative qui explique en partie son succès. Donc ce salafisme, en tout cas c'est votre opinion, a bien une place à part dans ces islams politiques.
C'est à la fois un point, il y a des éléments communs avec ce que vient de dire Bertrand Badie et un point de divergence. Les structures de socialisation jouent un rôle considérable. La transmission d'une histoire, d'une mémoire, l'entre-soi, la sociabilité, le mélange de l'affectif et du cognitif, tout ça forme en quelque sorte des micro-sociétés en tous les cas, des groupes primaires, comme on dit en sociologie, extrêmement solides, avec des sociabilités qui ne sont pas seulement celles de la mosquée, mais aussi celles de la salle de sport, mais aussi celles de la sandwicherie. Et tout ça se développe dans des écosystèmes. Là où ça devient dangereux, qui est un phénomène communautaire en France, dans le cadre républicain, c'est tout à fait autorisé. Là où ça devient dangereux, c'est quand il y a une substitution de ce cadre au cadre national. Et en l'occurrence, un discours qui est permanent pour écarter les individus de toute forme de participation et de toute forme d'affiliation avec l'État. Là, c'est mon léger point de divergence avec Bertrand Badie. Il a tout à fait raison de souligner l'importance des dynamiques historiques et des comparaisons avec le passé. Mais ici, il me semble que ces structures de socialisation sont relativement récentes. Ont finalement commencé à emporter une partie de la population d'ascendance musulmane, une partie, après la fin de la guerre froide, qu'il y a eu évidemment des réseaux d'enseignement saoudiens en Afrique de l'Ouest, tout comme en Europe, qui ont été extrêmement dynamiques, qui se sont à peu près réapproprié la définition de l'islam et qui l'ont imposé dans les terrains et dans les territoires où cette définition n'existait pas. Si, je vais prendre un exemple très simple. Vous n'entendrez presque plus maintenant un musulman ne pas dire « sallallahu alayhi wa sallam » après la prononciation de Mohammed. Ça, avant, les gens qui avaient une 60-70 ans disaient toujours le prophète Mohammed et c'était terminé. Maintenant, il y a cette formule dite de l'eulogie, paix et salut de Dieu sur lui, qui est une des effets à peu près minuscules, infinitésimal du salafisme sur la manière de parler, la manière de penser et la nouvelle définition de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qui est pur, de ce qui est impur. Les conducteurs de bus qui refusent de s'asseoir sur des sièges où les femmes se sont assises ou qui refusent de serrer la main des femmes, etc. C'est des hadiths qui sont assez fragiles par ailleurs, qui ont été mis en avant dans des centres salafistes saoudiens yéménites et qui rétroagissent directement dans l'espace social des sociétés européennes. Donc cette normativité, vous voyez, pour quitter les révolutions arabes ici, mais de voir qu'au fond, à chaque fois que le jeu institutionnel est fragile, qu'il y a une mauvaise intégration, que les instruments de socialisation de la République ne jouent plus, pour des raisons diverses, il y a ces entrepreneurs, et là Bertrand Badie a parfaitement raison de souligner le rôle d'un entrepreneuriat et d'une stratégique pour resocialiser des espaces et redonner des identités.
Bertrand Badie.
Oui, on n'est pas en désaccord. On n'est pas en désaccord pour une raison fondamentale, c'est que évidemment le contexte international, régional, national, il ne cesse d'évoluer. Et vous avez tout à fait raison de rappeler l'impact de la disparition de la bipolarité, de la chute du mur. C'est-à-dire que avec la fin de la bipolarité, je dirais les utopies de substitution qui n'avaient jamais véritablement fait souche, mais qui ont quand même joué un rôle important à un moment. Si vous prenez en considération un certain nombre de forces qui se sont développées dans le monde arabe, comme le baasisme ou le nasserisme, ils étaient indépendants de la rivalité Est-Ouest, mais quand même profondément marqués aussi par celle-ci. Ce qui s'est passé avec la fameuse fin des idéologies que l'on a présenté, nous, en Europe, comme une bénédiction, c'est que il n'y avait plus de choix. Et qu'effectivement, un appel d'air formidable s'est ouvert pour le retour à l'âge d'or, c'est-à-dire cette fameuse utopie régressive. À faute d'avoir de modèles en stock, on va aller puiser dans notre histoire. Et le salafisme, c'est exactement ça, c'est-à-dire le retour à l'histoire comme substitut à une modernité devenue détestable. Deux petits points, un de léger désaccord, l'autre de complément. Le léger désaccord, c'est qu'encore une fois, le salafisme, on le trouve partout sous des formes très très différentes. Je veux dire, du gouvernement saoudien, à l'opposition à Morsi, aux frères musulmans, des salafistes égyptiens qui ont rejoint le maréchal Sisi, donc on peut pas véritablement les classer dans la même boîte, jusqu'à effectivement des réalisations djihadistes violentes du salafisme. Mais encore une fois, tout salafisme n'est pas djihadiste, mais tout djihadiste n'est pas salafiste. Faut faire très attention. Et c'est mon dernier point à titre de complément. Effectivement, j'aime bien moi aussi. C'est la seule chose que j'ai de Weberienne, le concept d'entrepreneur. Je pense qu'il faut raisonner en logique d'entreprise. Il faut raisonner en logique d'entreprise parce que ce qui est à la base de tout ça, c'est, et on tourne tous les deux autour de cette idée, la mobilisation, la socialisation, la communalisation et pour faire cette socialisation, il faut faire son marché de tout ce qui correspond aux attentes des populations. Ces attentes, elles sont de différentes natures, elles sont très nombreuses, parce que l'échec politique dans toutes ces sociétés depuis leur indépendance a été catastrophique. Donc il y a des frustrations sur le plan politique, le sentiment de ne pas être respecté, d'être humilié. Vous avez des problèmes économiques, souvent des problèmes de survie, des problèmes d'insécurité alimentaire, d'insécurité sanitaire. Et à partir de cela, effectivement, vous allez mobiliser en modulant vos mots d'ordre et en les adaptant à cette réalité changeante. Et effectivement, le succès du printemps arabe, ça a été de mettre en orbite un concept qui non seulement n'a pas quitté le monde arabe, mais n'a pas quitté le monde en général, qui est le concept de dignité. Il a été repris par Karamat, il a été repris par tout le monde, il a été repris de façon contagieuse, entre guillemets, dans toutes les sociétés du monde arabe dès 2011, mais il est passé en Espagne avec les Indignados, il est passé en Italie, il est passé en France, il est prononcé par les Gilets jaunes, il a marqué Occupy Wall Street, c'est-à-dire que c'est une nouvelle grammaire qui s'est ainsi installée et qui, alors là, c'est plutôt le Durkheimien qui parle, reflétait tout simplement les pathologies sociales. C'est-à-dire ces entrepreneurs ont réussi à gérer cette pathologie sociale. Alors quand c'est pour contester, ça leur est relativement facile. Quand c'est pour gouverner, c'est un petit peu plus difficile, même si je considère que le gouvernement de M. Morsi a été quand même meilleur que celui du maréchal Sissi. Voilà, ça c'était petit brin de provocation.
Bernard Rougier, vous vouliez réagir, et je rebondis juste à un sens sur ce que vient de dire Bertrand Badi. D'abord, pathologie sociale, c'est vrai qu'il y a une question sur laquelle on a beaucoup polémiqué durant cette décennie, c'est la question de savoir si précisément la question sociale était première ou pas. C'est ces fameux débats autour de l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam. J'aurais voulu avoir votre sentiment sur le débat lui-même, Bernard Rougier. Mais alors, vous en prie, réagissez librement.
Je veux juste, mais parce que ça va peut-être éclairer et illustrer en même temps ce que disait Bertrand Badi, pour le djihadisme, il y a deux, c'est très intéressant, il y a deux histoires, il y a deux souches, il y a deux dynamiques, il y a deux trajectoires. L'une, c'est Al-Qaïda, qui, en effet, ne va pas particulièrement investir dans le salafisme. Ben Laden ne s'intéressait pas beaucoup au wahhabisme, ne lisait pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, lisait beaucoup plus les frères musulmans égyptiens, Sayyid Qutb, Mohammed Qutb, et son idée était de fédérer autant que possible le monde musulman, sans soulever la question des rapports entre sunnites et chiites, pour frapper les États-Unis. Ça, c'est une décision qu'il prend dès la fin de la première phase de la guerre d'Afghanistan, 91-92, et au Soudan. Et c'est lui qui convainc à cet égard Ayman al-Zawahiri qu'on voulait continuer à taper le régime de faire des attentats contre Moubarak pour venger en quelque sorte son séjour en prison. L'État islamique, c'est tout à fait autre chose. L'État islamique, c'est vraiment du wahhabisme primitif qui échappe au contrôle de l'institution religieuse saoudienne, qui s'appuie ici et maintenant sur la loi de Dieu telle que eux l'interprètent, et pour lesquels la notion première est celle de pureté. Pureté de la foi, pureté de l'environnement, pureté de la femme, etc. Et pour lesquels l'objectif premier est de définir un espace où cette pureté peut s'exprimer avec des tribunaux chariatiques, etc. Alors que, avec une territorialisation. Alors que la solution territoriale du côté de Ben Laden était remise à plus tard parce qu'il ne voulait pas exposer à des bombardements tout émirat, etc. à ciel ouvert, voyez. Et donc on a à l'intérieur du djihadisme deux histoires, deux traditions et deux manières de voir les choses extrêmement différentes. Alors à certains moments elles ont cohabité et à d'autres moments elles se sont combattues. Elles se sont combattues dernièrement en Syrie, mais elles s'étaient déjà combattues dès 94-95 en Algérie, au moment où les GIA, qui sont un peu les premières expressions de ce wahhabisme primitif, commettaient des massacres sur certains villages dénoncés à l'époque par Al-Qaïda. Donc c'est intéressant de voir, non seulement on a une énorme complexité de ce spectre islamique de manière générale, mais y compris à l'intérieur du djihadisme, où les courants sont multiples et où là, pour la clarté, j'ai développé de dynamiques. Pour répondre à votre question sur ce fameux débat, moi, à titre personnel, je suis davantage proche de Gilles Kepel, et en parlant de radicalisation de l'islam, plus que d'islamisation de la radicalité, mais avec là aussi, il faut s'entendre. On a, au fond, peut-être l'explication ici, à travers cette division que je viens de souligner. S'il y a eu autant de départs vers le Cham, la Grande Syrie, etc., c'est aussi parce que c'est venu de quartiers qui étaient le plus salafisés. Et salafisés, pas forcément de manière violente, mais avec cette idée que la pureté est un objectif fondamental et que dans la société française telle qu'elle est, les agressions sont multiples, la publicité, la mixité est vécue comme une agression et qu'il faut partir vers un espace où je pourrais au moins m'exprimer, faire ma hijra, être musulman sans avoir de contradiction. C'est-à-dire que là aussi, le message de socialisation, la manière de voir les choses, ce que Sartre appelait la capacité de néantisation, cette capacité de néantisation de la société française, de ses valeurs, de ses histoires, de son histoire, elle est possible parce qu'il y a un état idéal, parce qu'il y a au moins dans l'imaginaire, au moins dans le langage, quelque chose qui relève de la pureté, les premiers temps de l'islam, les grands récits des guerriers, les hadiths, etc. Et que on a une plongée dans l'imaginaire qui va se traduire par un départ dans la réalité vers cet espace fantasmé du califat. Après, qui sera évidemment vécu différemment par les intéressés. Mais vous voyez, c'est-à-dire c'est parce que, à mon sens, il y a eu salafisation d'une partie de l'espace social, diffusion d'un nouvel imaginaire, qu'on va avoir à ce moment-là, en Belgique, à Molenbeek, à Trappes, dans différentes régions, à Toulouse, etc., à Lunel, plus de départs qu'ailleurs, parce que ce sont des espaces qui ont été travaillés et fermés en quelque sorte par ces entrepreneurs religieux.
Bertrand Badie.
Oui, je voudrais dire deux choses. La première, c'est ce que Bernard Rougier décrit très bien, c'est-à-dire ce rapport, cette emblématisation, je dirais, de la pureté. C'est pas un phénomène spécifiquement islamique, c'est pas un phénomène spécifiquement musulman. Vous le retrouvez dans toutes les religions. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intégrisme dans chaque religion, qu'il s'agisse du judaïsme, qu'il s'agisse du christianisme et de ses différentes variantes d'ailleurs, ou qu'il s'agisse même du bouddhisme. Toute religion, là aussi c'est Durkheim qui remonte à la surface, toute religion est là pour fixer ce que Durkheim appelait la conscience collective, ce que vous appelez très justement, je pense que le terme est peut-être plus adéquat aujourd'hui, les imaginaires. La religion est un réservoir d'imaginaires, je dirais préconstruits, auxquels s'identifient différemment les différents secteurs de la société. Et certains, ceux qui précisément se sentent les moins intégrés dans les espaces sociaux, vont trouver dans la version de la pureté une façon naturelle de compenser justement leur aliénation, leur frustration. Ça, vous le trouvez dans l'histoire du christianisme et encore jusqu'à aujourd'hui, de manière extrêmement... Vous le retrouvez de façon extraordinaire, par exemple, dans les courants néo-protestants aux États-Unis, qui disent à peu près la même chose et qui même espèrent l'Armageddon et comptent sur cette espèce de salut collectif qui sortira d'un retour justement à la vérité et à la pureté.
La question, parce qu'elle est quand même, me semble-t-il, très importante, qu'est-ce que la République, notre République, peut opposer à cet imaginaire, précisément? Parce qu'on voit bien, évidemment, les effets tout à fait néfastes de cet imaginaire qu'on propose à ces gens qui vont se battre...
La République ou n'importe quel autre système politique a une fonction, comme on disait de notre temps, le concept est moins utilisé, qui est une fonction d'intégration. Et à partir du moment où des segments de la société sont mal intégrés, ils vont chercher des imaginaires de substitution à ceux que la République ne leur offre plus de manière crédible.
Alors comment on répond au défi? On ferme les mosquées ou est-ce on affirme de façon plus volontariste le principe de laïcité?
Tel comment que la répression pour confirmer les individus dans leur option de frustration et d'extériorité. Ça, c'est ce qu'on appelle en langage courant un cercle vicieux. Surtout pas ça. Surtout pas cette stigmatisation. Enfin, on en vient aujourd'hui à présenter l'islam comme étant le principal mal de la République. Et je dis bien l'islam. On ne prend même plus la précaution de dire l'islam. d'islamisme. Et en fait, d'islamisme, il faudrait dire un certain type de djihadisme. Ce que je voulais aussi ajouter, qui me paraît quand même très très important, c'est quand on a affaire à un mouvement, quel qu'il soit, la première chose en sociologue que l'on a à regarder, c'est qui il draine et qui il espère drainer. Et c'est du côté de la clientèle qu'il faut fixer son regard pour voir effectivement quelles sont les attentes. Regardez, moi j'ai pas mal travaillé ces derniers temps, parce que je pense que c'est l'avenir de probablement de bien des choses, sur le Sahel. Et notamment sur Boko Haram. Mais Boko Haram, c'est un travail très mécanique, en même temps de radicalisation liée à une répression qui a valu notamment l'exécution de son chef, et qui a provoqué une radicalisation absolument énorme, et a eu avant l'exécution et après l'exécution. Et surtout, c'est une entreprise banale de recrutement dans la rue, de tout un tas de gamins qui sont complètement hors système. Et à partir de cela, vous faites une entreprise. Et je dirais, dans l'esprit de ces dirigeants, le but est atteint. Je ne suis pas sûr que le vrai but soit la prise du pouvoir. Je pense que le vrai but, c'est la capacité de mobiliser. Alors si évidemment vous réprimez, si vous fermez, si vous étouffez, eh bien
ça fait alimenter la
ça
chose.
Ça sera. Mais oui, c'est rêver, c'est de la providence, c'est de la providence pour ces entrepreneurs. Surtout avoir en face de soi un gouvernement répressif, bien sûr.
Alors Bernard,
alors je suis un peu plus nuancé. Je pense quand même que le gouvernement sur cette question utilise le terme islamisme et ne confond pas les deux.
La presse pas à tous les coups, hein, si on regarde certaines couvertures.
Ça dépend de quelle presse on parle.
Pas France Culture.
Non, je sûrement pas.
C'est moi qui vais rougir.
C'est sur fond de Bertrand Badie a raison. C'est sur fond de désindustrialisation. Les instruments de socialisation ne fonctionnent plus. Les grandes solidarités du Parti communiste, etc., sont remplacées par un autre type de maillage qui souvent s'inspire des mêmes techniques. S'agissant de certains entrepreneurs que j'appelle moi islamistes, comment réagir? Alors il y a toujours ce problème. Faut-il fermer des mosquées au risque en effet d'alimenter la victimisation et l'idée au fond qu'on est confirmé dans son propre discours par la réaction autoritaire de l'État? À mon sens, l'idée, mais c'est facile à dire, il faut des ressources. Or, on en a des ressources publiques de moins en moins. C'est de reconstituer des sociabilités, des cours de musique, un ciné-club de cinéma, des perspectives qui font que le lien social est recréé ailleurs que dans un cadre religieux. Pour ça, il faut des salaires, des éducateurs, des structures. Mais rien n'est impossible. Une partie, vous savez, l'un des problèmes, ce que j'ai observé en banlieue, c'est la superposition de la mosquée, l'univers religieux, la résidence, l'univers ludique, le sport, l'univers professionnel. Ou quand certains disent il faut, pour trouver un job à la municipalité ou un job ailleurs, passer par la mosquée et utiliser l'entre-gens. Là, on a cette superposition et une forme de retraditionnalisation du quartier qui échappe complètement à l'État ou à la République. Et alors, tant qu'on a ces phénomènes-là qui exploitent la condition, le chômage, etc., on aura ce phénomène. Alors évidemment, il faut des moyens. On va pas réindustrialiser pour recréer des solidarités ouvrières, mais il faut trouver des moyens de créer des solidarités qui ne soient pas artificielles, qui ne soient pas justifiées par un discours un peu hors sol, en quelque sorte, et qui s'intègrent dans la vie quotidienne. C'est le défi à relever. Sinon, le phénomène paraît inexorable.
Bertrand Badie, encore un mot sur ce point, ou est-ce qu'on...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard, qui a fait un bel exercice de durkheimisme, je trouve. Ça, c'est un compliment, dans la bouche, un grand compliment.
Mais durkheim,
je pense qu'il faut quand même, je comprends votre souci de vous centrer sur la société française. On a un peu tendance, peut-être à exagérer, et quand on exagère, on stigmatise, et quand on stigmatise, on généralise, et quand on généralise, on fait beaucoup de mal. Hein, c'est la raison pour laquelle, Bernard a raison, c'est le terme islamisme qui est le plus souvent utilisé, mais islamisme, pour moi, c'est pas djihadisme non plus. Et il faut le répéter, il faut le répéter tous les jours. Quand le président de la République a parlé de l'hydre islamiste, est-ce qu'il se référait à MBS? J'en sais rien. Mais bon, mais ceci dit, ce que je voulais rajouter, puisque c'était votre question, c'était que tout ça se fait dans un contexte mondialisé. La grande différence entre aujourd'hui et hier ou avant-hier, c'est que les imaginaires sociaux sont mondialisés, et pas seulement l'imaginaire de nos élites ou de nos dirigeants, l'imaginaire de tout le monde. Tout le monde est connecté, et vous faisiez référence à la banlieue tout à l'heure, mais la banlieue et les personnes les plus désœuvrées, les plus marginalisées en banlieue, savent ce qui se passe dans le monde et ont une tendance naturelle à s'identifier à des causes qui, kilométriquement, sont lointaines.
Alors, justement, Bertrand Badi, ouvrons, j'allais dire, la perspective. Regardons, par exemple, et ce qui va nous permettre d'approfondir cette question du rapport à l'État. Si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé du côté de l'Égypte ou de la Tunisie, on a vu à un moment des forces islamistes conservatrices, appelons-les comme ça, évidemment, c'était pas les mêmes, mais en tout cas, elles étaient sous ce qualificatif, étaient parvenues à s'imposer dans les urnes. Et puis, finalement, et du côté de l'Égypte et du côté de la Tunisie, elles ont été marginalisées. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on s'est beaucoup interrogé à ce moment-là pour savoir s'il y avait une forme d'incompatibilité, au fond, entre l'islam politique, un islam politique, et la démocratie, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui dans nos démocraties libérales? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Puis ensuite, on verra avec Bernard Rougier. Bertrand Badi, d'abord.
Je pense qu'il faut repartir de la définition de ce qu'est un mouvement social. Un mouvement social, par définition, il est marqué par une certaine extériorité par rapport au système politique. Lorsque ce grand mouvement social du printemps arabe s'est, en plein hiver, déclenché, c'est-à-dire décembre 2010 et surtout janvier 2011, toute l'inconnu à l'époque, c'est allait-on trouver en Égypte, en Tunisie, ensuite dans d'autres pays voisins, le transformateur politique. Quand vous avez un mouvement social, et que vous avez un transformateur politique, on voit le système politique s'actualiser, parfois de manière révolutionnaire. La Révolution française, au départ, c'était un mouvement social, mais qui s'est actualisé dans un système politique rénové, parce qu'il y avait un siècle de philosophie politique, un siècle de lumière, un siècle d'invention de nouvelles utopies politiques. Le drame dans le monde arabe en 2011, c'est qu'il n'y avait pas de transformateur. C'est-à-dire, il n'y avait pas ni d'acteurs politiques, ni d'entrepreneurs politiques, ni d'idéologie politique capable de porter ce malaise. Bah, et la même chose...
Il y avait Inada en Tunisie qui a gagné les élections, alors, il y avait les frères musulmans en Égypte qui ont gagné les élections.
Alors j'y viens, effectivement, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'effet par défaut, c'est-à-dire les frères musulmans, les mouvements islamistes, je dirais légaliste, entre guillemets, Anada n'est pas djihadiste, hein, attention, et pas plus que les frères musulmans égyptiens, par défaut, ont porté ce mouvement, et le désamour, le relatif désamour, qui n'était pas total, d'ailleurs, parce qu'après tout, Morsi a été élu, et c'est le seul président en Égypte qui a été démocratiquement élu, il a été élu. Donc il y avait un désamour relatif qui s'est ensuite aggravé parce qu'il y a eu un phénomène de déception, mais ce qui est intéressant, c'est que la frontière entre le Nord et le Sud a disparu. C'est-à-dire, les Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. La revendication de la dignité et pas de transformateur politique. Et ça, c'est ce que j'appelle l'acte 2 de la mondialisation, c'est-à-dire ce temps nouveau dans lequel les instruments politiques traditionnels n'arrivent plus à exprimer cette volonté de changement du système, comme on dit. C'est un terme qui fait recette en ce moment, autant à Alger qu'à Beyrouth qu'à Paris. Faut changer le système. Ah bah oui, mais vous savez ce que c'est que le système?
Bernard Rougier, justement, à propos de l'Égypte, parce qu'on parle toute cette semaine on fait ce coup de rétroviseur, cette perspective sur la décennie, en plein milieu de la décennie. Vous aviez écrit justement un livre sur l'Égypte, sur la révolution égyptienne. Comment vous comprenez
avec Stéphane Lacroix?
Avec Stéphane Lacroix. Pourquoi est-ce que Morsi, élu démocratiquement, n'a pas réussi finalement à s'imposer? Pourquoi a-t-il été renversé? Y a-t-il une forme d'incompatibilité entre la proposition politique qu'il portait et l'aspiration démocratique des citoyens?
Il y a deux ou trois choses sur l'Égypte, très rapidement. D'abord, il y a une responsabilité des frères musulmans. Je sais que c'est pas très bien de le dire maintenant parce qu'ils sont en situation ils subissent une répression qui est incontestable et que Morsi est mort en détention, etc. Mais si on veut rester lucide, il y a eu un moment, c'était au début du mois de février 2011, où les Frères musulmans, le bureau politique, a préféré, j'allais dire, en tant que se percevant eux-mêmes comme un parti de l'ordre au fond, essayer d'assurer la gestion avec l'armée. Alors qu'il aurait fallu, et à ce moment-là, l'initiative institutionnelle, dans ce qui restait d'État, a été laissée à l'armée. Et d'une certaine façon, la révolution a échappé aux révolutionnaires. Début janvier, il était possible de mettre en place un conseil présidentiel avec les révolutionnaires, les frères musulmans révolutionnaires, et de mettre l'armée dans une situation où elle aurait dû perdre, où elle aurait perdu le contrôle institutionnel. Morsi a, d'une certaine façon, enfin, les frères musulmans égyptiens ont abandonné les révolutionnaires pour faire alliance avec l'armée. Ils ont transformé ensuite un premier référendum, on va pas rentrer, c'est assez compliqué, sur la durée du mandat présidentiel. Ils l'ont transformé en référendum pour ou contre la charia et le rôle de la charia dans la vie publique. À partir de ce moment-là, en quelque sorte, il y a eu une existentialisation des enjeux. C'est-à-dire qu'on a eu la coïncidence d'un discours sur le poids de la loi religieuse, entre guillemets, dans la vie publique, et on a eu en même temps une très forte libéralisation de tous les médias. De la même manière, il y a eu ensuite le débat constitutionnel où les frères musulmans n'ont pas été capables ou n'ont pas voulu maîtriser la surenchère religieuse faite par les salafistes, qui avaient obtenu 25% aux élections législatives. Et en quelque sorte, ils ont subi à la fois les initiatives des militaires d'un côté, la surenchère religieuse en matière constitutionnelle de l'autre, et le pacte politique, ils n'ont pas su le faire. Et évidemment, l'armée les a piégés en quelque sorte, en attendant sur la question de la Syrie, où Mohamed Morsi avait prononcé le djihad. Ça a été le dernier déclencheur du coup d'État. Mais en même temps, de forts segments de la population étaient devenus, j'allais dire, viscéralement hostiles à Mohamed Morsi, parce qu'ils n'avaient pas su trancher, rassurer sur la possibilité d'un pacte politique. C'était sa dernière invention, mais qui était celle portée par les salafistes, d'un comité religieux chargé de vérifier la conformité des lois à la charia, avec une charia qui n'est pas définie comme elle est entendue généralement, c'est-à-dire une définition du bien, une voie vers le bien, sans droit positif, sans prescription précise. Là, il l'avait définie en s'appuyant sur le Coran, la Sunna, tout ça était présent dans le texte constitutionnel. Et d'une certaine manière, je ne veux pas dire qu'ils sont à l'origine de leur propre chute, mais la gestion de... Ils ont fait plusieurs erreurs politiques et ils ont servi l'armée en quelque sorte dans son désir de reprendre l'intégralité du pouvoir et un général particulièrement ambitieux en son sein.
Dois-je en conclure qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité entre...
Non, et on aurait pu imaginer, mais je vais vous dire, en fait, l'élément dans votre réponse, c'est que les frères musulmans, et là on parle strictement des frères musulmans, ont commis une autre erreur, selon moi. Mais ça, sauf peut-être les frères musulmans tunisiens. C'est qu'ils ont toujours préféré maintenir l'unité de leur organisation sur les choix stratégiques en matière de doctrine et de politique. Ils ont gardé des gens qui n'étaient pas hostiles aux djihadistes sur certaines franges et des gens très libéraux, au fond, et très démocrates sur d'autres franges. Et ils ont joué de ces contradictions pour assurer, j'allais dire, l'unité de leur organisation sans trancher. Et cette volonté d'unité organisationnelle s'est traduite par le conflit doctrinal. Et finalement, Morsi n'a jamais su choisir en termes constitutionnels, en termes politiques, et a été victime de cette ambiguïté qui était devenue constitutive des frères musulmans, et que Ranouchi, au moins en Tunisie, au moins lui, avait su trancher au profit des libéraux et des islamo-compatibles, islamo-démocrato-compatibles.
Bertrand Badi.
Oui, la description très juste, que je partage totalement, que fait Bernard, me fait penser au Parti conservateur britannique, dans sa manière de gérer la question du Brexit, c'est-à-dire d'abord sauver l'unité du parti. Et ça, je prends exprès un exemple totalement en dehors du champ et très peu comparable, pour montrer que c'est une loi de la science politique. C'est-à-dire, une organisation à sa rationalité propre et elle ne sait pas s'adapter à la nouveauté de l'événement. Le Parti conservateur n'a pas été créé pour gérer l'intégration ou la non-intégration de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et de même, les Frères musulmans créés en 1928 n'ont pas été inventés pour gérer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui ou telle qu'elle se présentait en 2011 ou en 2012. Et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur cette idée de défaut de transformateur. C'est-à-dire, le grand paradoxe de ce formidable mouvement, qui est le printemps arabe, c'est qu'il n'a pas pu susciter d'organisation, d'idéologie, d'idées politiques qui soient compatibles avec la nouvelle donne et avec les nouveaux paramètres. Mmh. Et ça, c'est un phénomène qui explique ce qui est aujourd'hui sous nos yeux, cette prolifération de mouvements sociaux très différents, mais qui se ressemblent de Santiago du Chili à Beyrouth, de Bagdad à Paris, de Khartoum à Hong Kong. Et cette crise profonde du politique qui ne sait pas s'adapter à des paramètres sociaux qui ont changé très vite avec la mondialisation, c'est l'explication, effectivement, en même temps du blocage, c'est-à-dire on ne voit pas comment sortir de tout cela, de l'absence de débouchés, quel débouché pour le printemps arabe, et peut-être pire que ça, c'est aussi l'explication de contestations sociales qui deviennent de plus en plus expressives et de moins en moins revendicatives. Et effectivement, cette contestation islamiste, elle est davantage expressive, l'expression d'un malaise, l'expression effectivement d'une sensibilité à une utopie régressive et ancienne, beaucoup plus que porteuse de revendications précises, c'est-à-dire d'un programme de gouvernement, on aurait dû au temps de l'Union de la gauche.
Bernard Rougier, le mot de la fin, on arrive presque au terme de cette émission.
Le mot de la fin, et là ça sera le point total d'accord avec Bertrand Badi. Je me demande, moi, si on n'a pas eu, avec l'échec du processus de paix, quelque chose qui a anticipé tout ça, c'est-à-dire le retrait américain, leur incapacité à assurer les prestations qu'ils s'étaient engagés à assurer, un processus politique qui n'a pas fonctionné parce que celui qui en était responsable n'a pas assuré, encore une fois, son rôle, des acteurs régionaux qui ont investi en termes religieux et qui l'ont rendu impossible, des populations de plus en plus frustrées. Je crois que et puis pour des populations, la question israélo-palestinienne comme étant un enjeu où se juge précisément l'universalité des valeurs et des principes. Et à partir de là, cet échec a nourri et a donné beaucoup d'arguments aux entrepreneurs religieux qui avaient un autre agenda et d'autres ambitions. Il me semble qu'on ne fait pas suffisamment le lien entre cet échec du processus avec toutes ses dimensions régionales, s'agissant du Moyen-Orient et du reste du monde, en quelque sorte, avec la confiance qu'il était censé construire entre les acteurs et la manière dont il a généré la déception. C'est aussi une construction politique qui a échoué, et elle a échoué faute d'investissement, d'autorité et de crédibilité.
عذروني يا الأحباب يوم تفكرت حبيبتي عندي مدة ما شفتها راني توحشت حبيبتي عذروني يا الأحباب غدوة نركب بسفينتي نقطع البحور حتى نوصل لحبيبتي رد بالك يا الغافل البحر راه مهول قداش من سفينة قدها موجاتو رد بالك يا العاشق من البحر الغامق قداش اللي غرقوا واللي ماتوا.
Voilà, ici Jamel Jenidi qui reprend évidemment Brassens, qui est cher à votre cœur, Bertrand Badi. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi.
Et il nous manque. Il nous manque surtout dans le contexte d'aujourd'hui, où il aurait beaucoup de choses à dire et de leçons à nous donner.
Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Badi. On vous retrouve demain. Je citerai trois de vos ouvrages de la décennie, « Quand le Sud réinvente le monde »,« L'hégémonie contestée »,« Nous ne sommes plus seuls au monde ». On mettra évidemment toutes ces références sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à vous, Bernard Rougier, de nous avoir accompagnés en ce 31 décembre. Je rappelle que ça va paraître très bientôt, dans quelques jours, « Les territoires conquis de l'islamisme », c'est chez PUF. Autre ouvrage, toujours chez PUF, l'Égypte en révolution, qu'est-ce que le salafisme ? Mais ça, c'est avant la décennie 2010, justement. C'était en
2008.
Merci infiniment, en tout cas.
في خاطر محبوبي قولوا لها يا مولاة الزين تتفكر الحبيب المسكين إذا قدر مولانا.
11h53 minutes, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian Delorme.
Et très bonne année 2020.
Bonne année à vous.
Allez, suite de vos conseils de lecture, Brice, quels sont les livres qui peuvent nous aider à y voir un tout petit peu plus clair dans les soubresauts du monde tel qu'il va?
L'auteur du troisième livre que je voudrais recommander à nos auditeurs en ce début d'année est un habitué de votre émission, c'est Giuliano da Empoli. Il a publié cette année chez Lattès un ouvrage vivant et clair, très éclairant sur les technologies de manipulation de l'opinion et son titre c'est « Les ingénieurs du chaos ». C'est une enquête fort bien menée sur les fameux « spin doctors » ou « technologues de la politique » comme on dit en Russie. Ces gens qui se nomment Steve Bannon, Milo Yiannopoulos ou Arthur Finkelstein sont parvenus à faire triompher aux élections des thèmes ou des candidats inattendus et invraisemblables. L'auteur les appelle « les nouveaux docteurs fol-amour de la politique ». Ce sont d'abord des champions de l'algorithme, puis des géomètres des passions populaires, experts en théorie complotiste. Le fond de leur technique consiste à agréger des colères et des peurs afin de les transmuer en mouvements d'opinion. Leur arme principale, c'est la dérision, la bouffonnerie, contre laquelle l'argument rationnel ne peut que venir s'écraser. On pense à l'épisode de Black Mirror intitulé « Le show de Waldo » qui montre l'impuissance des politiciens classiques, normaux quoi, face à l'humour déstabilisateur d'un personnage virtuel, sarcastique, vulgaire et méchant, en l'occurrence un petit ours manipulé par un comédien raté en quête de revanche sur la vie. L'Italie a été le laboratoire politique du monde, explique Da Empoli. Il n'est donc pas étonnant que son livre commence par ce pays, car c'est là qu'ont été expérimentés en avant-première par un informaticien, Gian Roberto Casaleggio, les nouvelles techniques de manipulation de masse. Un software permet d'organiser des discussions sur le thème de la corruption des élites. Un algorithme repère les slogans les plus repris. L'allure générale du site paraît entièrement libre et déstructurée. Et en réalité, Casaleggio contrôle son architecture de manière obsessionnelle. Sa théorie, il la résumait d'une formule, « Une fourmi ne doit pas savoir comment fonctionne la fourmilière ». Les algorithmes mis au point par les ingénieurs du chaos, écrit Da Empoli, donnent à chacun l'impression d'être au cœur d'un soulèvement historique, d'être enfin devenu l'acteur de l'histoire, et ainsi est né le mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles a une vocation explicitement totalitaire, écrit Giuliano Da Empoli, dans le sens qu'il prétend représenter non pas une partie, mais la totalité du peuple. Il ne cherche pas vraiment à entrer dans le jeu parlementaire classique, d'un système d'ailleurs qu'il juge dépassé, mais je cite encore, à conduire l'Italie vers un nouveau régime politique, la démocratie directe, dans laquelle les représentants des citoyens disparaissent et où les décisions sont censées émaner directement du peuple, lequel s'exprimerait à tout moment grâce au site contrôlé par le mouvement. Commencé à présent, les 5 étoiles ont pâli en Italie et c'est un populisme bien plus classique et clairement situé à l'extrême droite, celui de Matteo Salvini, qui a directement bénéficié de la désaffection de ses électeurs.
Mais alors Brice, sur quel sentiment ces ingénieurs du chaos s'appuient-ils au sein du public visé?
Pour prendre le pouvoir, ils misent sur la rage, selon Da Empoli, l'affect narcissique par excellence qui naît d'une sensation de solitude et d'impuissance. Plus les gens se sentent menacés par des phénomènes qu'ils ne comprennent ni ne contrôlent, plus ce ressort est puissant, la rage. L'art des spin doctors populistes consiste à amplifier cette rage et à la diriger contre ce qu'ils appellent les élites, les élus, experts, représentants d'une institution, porteurs d'uniformes. Le jeu de massacre prend pour cible tout détenteur d'une autorité. La rage est un bon moyen d'accrocher l'attention des surfeurs sur l'Internet. « Là, vous allez être scandalisés, leur promet-on ici. Attendez-vous au pire avec cette histoire, dit-on ailleurs. » Les réseaux sociaux entretiennent spontanément l'indignation et la colère. Les ingénieurs du chaos connaissent l'art d'exacerber les conflits. Leur objectif, c'est la polarisation. Ils sèment les germes de la guerre civile afin de récolter les fruits du ressentiment. Les épidémies de colère qui déstabilisent nos démocraties sont entretenues par des opérateurs parfaitement conscients de ce qu'ils font. Prenez Steve Bannon, le maître escom de Trump, ou Milo Yiannopoulos. Voilà des personnages authentiquement disruptifs. Ils adorent choquer, transgresser, scandaliser. La droite radicale nouvelle, celle de l'ère d'Internet, ne ressemble en rien à celle d'autrefois. Elle cultive la vulgarité, elle fanfaronne, elle défie les conventions et ça plaît. Le plus grand danger qui menace nos démocraties libérales, conclut l'auteur de ce livre, Les ingénieurs du chaos, donc, c'est la fusion des populismes d'extrême droite et d'extrême gauche. Et dans le contexte chaotique qui est à présent le nôtre, il suffit d'un événement infime, inattendu, de ce qu'on appelle un signe noir, pour précipiter ce cocktail. Il peut se révéler détonant.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cet auteur, Les ingénieurs du chaos, Giuliano Tampoli, qui avait été publié chez Lattès. Un grand merci Brice, on peut retrouver évidemment les références sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Raphaël Bourgois et la Grande Table.